Livrez-vous, mes très chers.
Écoute ta fac. Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et bonjour à toutes et tous, il est actuellement midi, on est dans Écoute ta fac sur Radio Campus. Aujourd'hui au sommaire, nous avons un invité de Sacre Bleu, Jean-Michel Ouvry, suivi de l'interview de la ressourcerie, la ressource AAA avec Daniel dans Écoute ta fac. Nous écoutons directement The Trust acoustique de Moonshield sur Radio Campus. Bonne écoute.
I'm not afraid to
Listen to special radio shows and playlists prepared by 8 European partner radio stations united under the Indire 2.0 network from 9th to 15th of October. More at indire.eu, cross-section of local independent European music, co-funded by the European Union.
Tarde, que amor, antes que sea demasiado tarde.
Thank you.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
On est toujours à l'antenne de Radio Campus Orléans dans Écoute ta fac. Et ce midi, on accueille Jean-Michel Ouvry. Alors, tu te définis comme directeur artistique de Sacrebleu qui demain fait l'ouverture d'une nouvelle édition, la 6e édition du Loire Art Show. Alors, tu en es même fondateur de ce Loire Art Show. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour, bonjour.
Alors, 6e édition du Loire Art Show.
6e sous le nom du Loire Art Show. Ouais.
Du Loire Art Show.
Alors, ça a commencé en 2015 ouais. avec une sorte de projet pilote, on va dire, qui s'appelait L'école est finie. On avait commencé dans une petite école maternelle qui était en hyper-centre d'Orléans vers la Saint-Pierre-le-Puellier. L'école qui est en face de l'église Saint-Pierre-le-Puellier. Donc, on avait récupéré ce projet. Et après, c'est devenu le Loire Show en 2017. On a commencé par De Souvenirs. 2017, c'était alors, l'hôpital Porte-Madeleine.
Oui, voilà, l'hôpital voilà. Porte-Madeleine.
On a commencé costaud.
Disons. Alors, il y a eu également la piscine, l'ancienne
alors,
piscine. C'était l'année dernière.
Ouais, 2017, l'hôpital. 2018, les vinaigreries des Sceaux.
Oui.
2019, Anatole Bailly. 2020, Covid. 2021, la patinoire. 2022, collège Jean Rostand. Et ah non, non. 2022,
la piscine
voilà. Le palais des sports. Et 2023, parce que nous sommes en
2023. Donc, il y a 6 à 7 ans, l'école était finie. Alors, cette année, comme tu l'as dit, hein, c'est le collège qui est terminé.
Ouais, ouais.
Le collège Jean Rostand, c'est le lieu, en fait, qui a été retenu pour cette 6e édition. Alors, comment ça a été retenu ce lieu-là? Pourquoi le collège Jean Rostand?
Alors, c'est le deuxième collège. À la fin de chaque édition, on fait un point avec la mairie. C'est un projet mairie. C'est, donc, on travaille en partenariat avec le service culture de la mairie, donc notamment avec Julien Huguenin, William Chancerel, l'élu, et les autres personnes du service culturel. On fait un bilan du projet Loire Chaud. Généralement, ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Et on fait un point aussi sur l'avenir du festival. Qu'est-ce qu'on fait? Le concept, c'est de popper d'année en année, de lieu en lieu. Si on refait deux fois le même lieu, on va prendre une flopée de remarques. Donc ça, c'est le concept. On essaie de changer de lieu. Mais après, il faut encore trouver les lieux. Donc chaque année, il y a une liste de lieux. On a des listes de lieux en tête. On a un calendrier sur les années à venir, des bâtiments qui sont à l'abandon ou qui vont être disponibles.
Ouais.
Et à la sortie de chaque festival, il y a une sorte de course contre la montre. Vite, 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 trouvons un lieu, faisons nos commissions de sécurité, trouvons un univers, trouvons un folklore. Donc chaque année, on visite des lieux. Des fois, il y a des énormes désillusions.
Ouais.
Et des fois, il y a des bonnes surprises. Donc Jean Rostand, c'est la mairie qui me l'a sorti du chapeau parce que je ne le connaissais pas. Et que nous, effectivement, jusqu'à présent, on était en hyper-centre parce que j'y vis. Et qu'on a tendance à cibler l'hypercentre pour l'instant parce qu'il y avait plein de bâtiments, que la culture était là. Et que c'est la première fois qu'on sort de l'hypercentre. Donc c'est un gros challenge. C'est très bien parce qu'on est peut-être, je sais pas, on est combien sur l'agglo? 200, 300 000?
Oui, je crois
et
qu'on
que
est pas loin.
L'hypercentre, c'est une mini poignée. Donc si on voulait que le festival passe un cap, effectivement, il fallait tenter l'aventure des quartiers.
Il y en a beaucoup des lieux candidats comme le collège Jean Rostand toute l'année.
On est sur une liste de 5 à 10.
Ah bâtiments. Oui, quand même, chaque année, différents chaque année.
Ouais, on ne se rend pas compte, même sur le calendrier, par exemple, il y a des bâtiments qui vont être refaits, réaménagés. Donc on regarde sur le calendrier de la mairie et on sait qu'à telle époque, il va y avoir ce bâtiment qui va être reconstruit, qui va déménager, etc. Donc nous, le but du jeu, c'est de prendre en compte le calendrier des travaux. Et de trouver, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer à travers les gouttes, les maçons, les électriciens, et passer à un festival? L'exemple, Anatole Bailly, on était vraiment en même temps que les travaux. De Souvenirs, il cassait une aile, et nous, on était en face.
Alors, Anatole Bailly, c'est le collège qui est en centre-ville, qui accueille aujourd'hui l'ISC, c'est ça?
L'ISC, exactement. Il y avait la course, derrière, il y avait les gars qui cassaient tout, et le week-end, nous, on faisait la fête.
Il y a des lieux que tu as visités, tu disais que c'était des désillusions. Tu peux en citer quelques-uns?
Alors, ce n'est pas des désillusions, c'est que le bâtiment, il est incroyable.
Mais ça ne s'y prête pas, quoi.
Parce que nous, moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Et qu'obligatoirement, on est obligé de s'entourer de professionnels. Et que c'est eux, à la fin, qui me disent, c'est pas possible. Ou sinon, il faudrait injecter tant de milliers d'euros pour remettre le bâtiment aux normes. Donc, il y avait un bâtiment qui était incroyable. C'était les cinémas abandonnés au-dessus de Place d'Arc.
Oui.
Qui est
l'ancien cinéma Pathé qui, depuis quelques années, est fermé.
Mais ça, il y en a d'autres. Et du coup, on serre les dents, on boude 5 minutes et on trouve vite un autre bâtiment pour relancer la machine. Mais ça fait partie du jeu. Il y en a eu plein. Chaque année, on a une liste de bâtiments, on les a pas. C'est pas grave, il y en a d'autres.
Est-ce qu'on serre les fesses quand on ouvre un Loire Art Show dans un bâtiment abandonné? Est-ce qu'on a
peur des fantômes?
Peur des fantômes, non. Ou peur pour le public, que le public croise des fantômes ou traverse un plancher?
Alors ça, normalement, non, parce qu'on a justement une commission de pompiers, de sécurité, on fait tout. En plus, on est encadré avec des services événementiels de la culture qui ont justement l'œil sur ça, qui nous mettent les normes de sécurité, qui font attention à tout. À force, si on commence à avoir de l'expérience, on fait gaffe à ne pas aller laisser des bouts de ferraille en travers d'un couloir, de ne pas laisser... Rappelez-vous de la piscine, tout était barriéré, il y avait des crash tests, crash barrières partout. Non, le but du jeu, c'est que...
Il n'y a plus d'eau.
Ouais, voilà. Le but du jeu, c'est que personne ne se fasse mal. Je ne veux pas finir dans la page des faits divers. Je veux rester dans les pages culturelles.
Et quand tu as proposé ce projet pour la première fois, ça n'a pas fait peur, justement, à la mairie, de se dire on va investir des lieux abandonnés?
Alors, moi, j'ai commencé à négocier. Je suis orléanais, à la base. Je suis de la Ferté-Saint-Aubin. Mais bon, moi, je suis parti faire mes études, vivre à Paris, à l'étranger. Et j'ai commencé, le premier projet en tant qu'artiste, parce que je fais ça là-bas, je dessine, c'est en 2006 sur la ville de Troyes, et c'était s'appelait un projet avant travaux, vraiment le même concept. On récupère un bâtiment abandonné, moi j'étais invité en tant qu'artiste. Je vois ça, je trouve ça génialissime. J'étais jeune à l'époque, donc c'était difficile pour moi de me projeter sur un portage de projet équivalent. Donc je fais ma petite carrière, ma petite histoire dans les agences de pub, etc., etc. Mais je commence à redémarcher la ville d'Orléans en 2010, tout doucement, hein, en voyant des mails, en les sollicitant. Ça n'a pas hyper bien marché. Prenais, bon, bah, comme tout porteur de projet culturel sur les grosses villes, on prend des râteaux. Et il y a eu un projet qui a fait un peu jurisprudence sur la France. Il s'appelle la Tour 13 à Paris, qui a été monté par la galerie Itinérance parisienne. Et là, tout le monde a vu que c'était le carton. Il y avait BFM, il y avait toutes les radios qui étaient là, il y avait 9 heures de queue. Donc moi, j'ai reformulé tout mon dossier par rapport à ça. Et après, c'est clairement de la chance. Je suis arrivé et il y a eu un changement, une transition dans les couleurs de la culture, les attachés culturels ont changé. C'était les chaises musicales. Je suis tombé sur la bonne personne qui m'a lancé sur la bonne personne. Et le premier projet a été donné, ça a été monté comme ça. Donc, beaucoup de chance au début. Je suis arrivé au bon moment avec un dossier avec un bâtiment abandonné, tout petit, qui permettait de se faire les dents. Ensuite, il y a Julien qui arrive aussi sur le poste, donc qui a cru en cette histoire. Et là, c'est lui, avec Julien Huguenin, qu'on a monté le gros Loire Show, le premier tour à l'hôpital avec des gros concerts, etc. Et après, on a reformulé ça en orientant beaucoup plus art, gribouille, peinture.
Et donc, cette année, au collège Jean Rostand, coup d'envoi, c'est donc demain pour les deux prochaines semaines. Et d'ailleurs, dans deux semaines, c'est aussi la démolition à la source de la T17. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir pu investir ce lieu? Corde sensible.
Ouais. On peut pas tout faire.
On peut pas tout faire.
La T17, c'est énorme. Il y avait des normes, des contraintes. Ça fait peut-être partie des bâtiments qu'on s'auto-censure parce que c'est trop compliqué d'y aller. Il y a une sécurité en termes de normes. Par quoi on commence, en fait? C'est trop grand. Il y en a d'autres, des bâtiments complètement fantasmés. L'hôpital La Source, mais par quoi on commence? Les chèques postaux, je peux t'en citer.
La maison de retraite à la chapelle Saint-Mémin, qui a un très beau bâtiment.
Ouais, mais celui-là, il n'est plus du tout aux normes. J'y suis allé récemment.
C'est trop pourri.
C'est trop tard. Il est pourri maintenant. On ne peut pas faire entrer du public là-dedans. Donc, c'est bien pour ceux qui font de l'urbex, c'est bien pour faire de la captation, s'amuser. Mais...
Parce qu'il y a un délai de combien de temps entre l'abandon du bâtiment et justement la période durant laquelle on peut faire quelque chose?
Il y a des bâtiments qui ont été abandonnés pendant 5 ans, 6 ans, qui sont nickel.
Ouais.
Parce qu'ils sont gardés, il y a un gardiennage, il y a une sécurité, ou ils ont été oubliés. Et tu as des bâtiments qui sont déglingués en 6 mois. La chapelle, il a été déglingué, il a été abandonné en 2017, il y a 5 ans. Et là, il est dans un état de fatigue absolu. On ne peut pas se permettre de faire entrer des gens comme ça dans des lieux. Alors oui, il est incroyable. C'est peut-être le plus beau bâtiment d'Orléans en termes de... Il y a ce côté, waouh. La serre intérieure, elle est incroyable. Mais ce n'est pas aux normes, il ne faut pas y aller.
Donc, tu as fait un tour pour voir la faisabilité et en fait, non, quoi.
Non, même pas. Je savais que c'était foutu. Mais en tant qu'artiste peintre, pour aller peindre, c'est un lieu quand même emblématique pour aller peindre. À titre perso, j'y suis allé, oui.
Et puis, on voit aussi sur Internet des vidéos justement d'urbex dans ce bâtiment.
On les voit avant, les grosses vidéos connues. Avant le passage de tout, il y a des squats, il y a des ferrailleurs qui viennent récupérer. C'est vraiment un public qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on rencontre là-dedans. Du coup, quand les gars ils récupèrent de la ferraille, ils défoncent tous les murs. Et ça doit défoncer les sols. Donc là, c'est trop dangereux pour tout le monde.
Comment on explique cet intérêt pour les bâtiments abandonnés? En termes d'exploration, en termes d'artistique?
En tant que peintre, artiste
peintre? Oui, en tant que peintre ou en tant que justement fondateur de Loire Art Show.
Bah, y a ce côté inconnu, c'est ce côté champ du signe du bâtiment. Quand on récupère un bâtiment comme Anatole Bailly ou comme le collège ou l'hôpital, on tape dans la mémoire des Orléanais. C'est-à-dire que moi, je suis passé dans ce collège-là. Il y a vachement de gens qui me disent qu'ils sont passés. Il y a un livreur, à un moment, se fait livrer un projet d'une marque qui nous vient livrer les peintures. Il me dit, mais moi, j'étais au collège à cette époque. Je vais revenir. Pareil, moi, à l'hôpital, mes enfants, j'ai accouché ici. Etc, etc. Donc il y a une sorte, c'est le patrimoine culturel d'Orléans, c'est la mémoire d'Orléans, et du coup on permet une sorte de chant du cygne un week-end, c'est hyper frustrant pour ceux qui le loupent, mais débrouillez-vous, il y a trois week-ends.
C'est une manière pour les habitants et habitantes de rendre un dernier hommage à tous ces bâtiments,
De le voir.
Il y a quand même des bâtiments,
les gens, il y a plein de gens qui... En plus c'est des bâtiments, c'est quand même le patrimoine architectural d'Orléans, généralement les gens n'y ont pas accès, quoi. Donc, oui. On n'a pas accès à tous ces bâtiments... Et généralement, c'est des bâtiments qui partent souvent dans le privé derrière. Tu vois, Anatole Bailly, c'est parti dans le privé. L'hôpital, ça devient je crois que ça devient un hôpital. Non, ça devient un hôtel. Du coup, c'est fini. C'est fini. Les gens, c'était dans le domaine public, c'est parti dans le privé. Donc, c'est maintenant ou jamais, si vous voulez voir des bâtiments, ce genre de bâtiments. Donc, c'est un concept qu'on trouve sympa d'attraper des bâtiments un peu what the fuck, en disant, les gars, c'est le moment de voir derrière le rideau ce qui se passait à une époque.
Et surtout de le montrer sous un jour différent, puisque chaque année, c'est près d'une vingtaine, presque une vingtaine.
C'est la première fois où on arrive à 20. Normalement, on est sur 10.
10, voilà. Et là, il y a 20.
Là, 20. Parce
18,
que...
je crois, pour être exact.
Ouais, mais on rajoute au fur et à mesure, on invite des monde, guests au fur et à mesure, donc on va arriver à 20.
Alors, on a qui sur cette sixième édition au collège
Jean Rostand. Tu l'étais à la liste?
Oui, j'ai la liste. Hein. On a Arcane, on a Bulle Derouette, Cone The Weird, Daniel Munoz, Eno Raon, Guillaume Hitt, Guillaume Font, Lorraine Motti, Lucas Leda, Matt X Zeki, Moquet, Norma, Nubian, Sir Papa Chango, Steven Salvat, Projet Réo et William. Donc, c'est la guest list. Alors, comment tu les choisis, ces artistes?
Au code postal.
Au code postal.
Non, 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 il y a pas de sélection.
Ils sont locaux pour la plupart.
Non, non, il y a pas de sélection code postal. C'est alors on nous le remarque, on nous le fait remarquer souvent. Ouais. Vous faites pas croquer les Orléanais. Désolé. C'est pas l'identité de Sacre Bleu. Sacre Bleu, il y a trois directeurs artistiques.
Ouais.
Moi, je suis Orléanais. Il y a Nico qui vit sur Paris et il y a Itse qui est mexicaine. Donc en gros, Itse,
elle vit au Mexique.
Non, elle vit à Paris.
Elle vit à Paris, mais elle est mariée. D'accord.
Et elle a fait à peu près un projet similaire. Elle est porteuse de projets graffiti, fresques sur le Mexico, des énormes fresques. Donc d'accord. C'est pour ça que depuis 2-3 éditions, on voit beaucoup de Sud-Américains ou de Latinos arriver parce qu'elle a un vivier. Donc on essaie de se calibrer un peu comme ce que peuvent faire les scènes musicales. C'est comme les tourneurs, on voit que ces gars-là sont invités en Europe, qui se font la tournée de galeries, qui sont à Berlin à ce moment-là. On fait, bon, au lieu de se payer un billet d'avion Mexico-Orléans, on leur dit, on va peut-être te prendre, t'es à Paris à telle époque, bingo, on t'attrape.
On en profite pour... Voilà. Ouais. Donc il y a des artistes internationaux.
Ouais, donc là on a un Mexicain, ça peut l'auberge espagnole, hein, ça commence comme une bonne blague, il y a un Belge, non, il y a un Allemand, un Mexicain, un Italien, deux Espagnols, et plein de Français forcément, il y a quelques Orléanais forcément. Mais voilà, après nous, on a une direction artistique qui est très peinture, malheureusement. C'est triste, hein, c'est juste peinture, illustration. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise du graphite, le même médium que les sprays et qu'on travaille sur des murs, qu'on fait du graffiti, en fait, ni du street art. On n'est pas street art, on ne fait pas trop de graffiti. Même si certains des artistes en font en parallèle, la direction artistique, elle est très orientée sur des gros dessins. Il faut que ça soit des beaux dessins, des gros dessins. Et un des critères qui nous importe le plus, c'est si par exemple je prends n'importe quel artiste, je mets à l'aveugle une fresque dans la rue, je veux que les gens soient capables de reconnaître, ah oui, c'est l'univers de ce mec. Je veux que les artistes ont un univers singulier, repérable. C'est ça le critère numéro un du festival. C'est on prend des gens qui ont un univers.
Et c'est vrai que ça paraît quelque part contre-intuitif parce que souvent on a une image en fait de la peinture en bombe, tu l'as dit, un graffiti tag, on a une image qui est généralement négative. Est-ce que le Lore Art Show en fait permet quelque part aux gens de changer leur idée sur cet art?
Par exemple, sur cette édition, on a pratiquement 80% sont à l'acrylique, pinceau acrylique.
C'est vraiment de la peinture.
Il y en a, mais là je pense que c'est 30% qui font de l'aérosol.
C'est une
mais voilà, en fait, il n'y a pas de recrutement à la technique. Il y a pas, voilà, on prend des univers, on prend des univers. Donc des fois, il y a vraiment des gars qui ont jamais fait de graffiti, de vandal, de street art. C'est juste des gars qui font des belles illustrations. Il y en a qui viennent de la bande dessinée, il y en a qui viennent de l'animation, dessin animé. Il y en a qui sont juste illustrateurs, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, le but du jeu, c'est de faire des belles images, des grosses immersions dans des univers.
Oui.
Et ma foi, je crois que c'est déjà pas mal, non?
Alors du coup, des artistes internationaux, est-ce qu'on entend parler du Loire Art Show à l'international?
J'espère. On a eu quelques coups de presse très costauds, surtout à la sortie de l'hôpital. On a eu des apparitions dans des journaux américains.
Des journaux, pardon.
Juxtapose de souvenirs au boom, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est un gros coup de fierté, surtout que c'est une galerie américaine de New York qui avait repéré une artiste sur place qui l'a fait venir. Voilà. Donc, on a l'impression qu'on doit être visible un peu à l'étranger. Les gens connaissent, par exemple, quand on propose à des artistes comme Daniel Munoz, il a dit oui tout de suite, parce qu'il connaissait. D'ailleurs, on est des fois sollicité par des petits coups, des petits pics d'étrangers, de Mexicains. Il y en a qui lèvent la main pour venir sur les prochaines éditions. Quoi.
Alors, Loire Art Show, c'est aussi une programmation musicale avec des DJ.
Des DJ, ok, ouais. Alors ça, c'est plutôt la partie mairie qui organise ça, donc, qui gère ça, donc notamment Julien Huguenin, bah, qui est chargé de culture musicale sur la ville d'Orléans. Je lui fais entièrement confiance.
Sur cette programmation musicale. En plus de ça, c'est des noms en fait, qu'on connaît très très bien à Radio Campus. Hein. On a notamment le collectif du Saint-Disque. Le Saint-Disque dont certains DJ en fait, viennent le lundi soir animer l'antenne de Radio Campus. Je vois aussi, on a le samedi, on a Nero et Brasco, Darial King Funkster notamment. Brasco est toujours avec nous. On a également des personnes qui ne sont pas forcément à l'antenne de Radio Campus, mais qui sont
Dans l'univers, des connus.
Hein. Je pense notamment à Chacha Boogers. Donc il y a vraiment une belle programmation. Oui.
Et surtout que Chacha Boogers nous aide sur un autre projet en parallèle sur le Loire Show.
Lequel?
C'est-à-dire qu'il nous a fait un... Alors comment expliquer ça? Parce que moi, je n'ai pas les termes musicaux. Il nous fait une tambouille musicale pour chaque pièce. C'est-à-dire que chaque pièce aura une ambiance musicale. On a voulu upgrader un peu le niveau de tout ça. C'est-à-dire que les artistes peignent. Et on va mettre des petites enceintes et des petites ambiances. Et c'est Chacha qui nous a pondu des petits trucs, des petites musiques.
Des petits trucs sympas. Quoi.
Ouais, j'espère. Je n'ai pas tout à écouter, je fais entièrement confiance.
Alors, un autre projet de Sacre Bleu, si je ne dis pas de bêtises, c'est Le Mur.
Le mur participatif?
Ouais.
Ah, alors attends, on parle de deux trucs. Soit il y a le mur des Carmes, soit on a gagné un projet de...
Ah, il y a deux murs. Alors parle-nous de ces deux murs.
Alors il y a le projet participatif de façade sur la source qui a été gagné au mois de juin.
Parle-nous-en.
Alors, il y a eu tu sais, chaque année, la mairie d'Orléans met une cagnotte assez costaud pour tous ceux qui sont porteurs d'idées. Et bien, un soir, j'ai fait blablabla, j'ai écrit mon texte, j'ai envoyé ça. Ça a été soumis à des votes. Bingo, on a gagné. Donc, à voir comment ça va être formulé, à voir qui va porter ça. On espère secrètement que ça soit nous, mais voilà, on ne sait pas. Et c'est un projet, on a proposé un parcours de façade dans le quartier La Source, parce que y a plein de murs, la fac, il y a plein de murs. Donc après, à voir si c'est compatible avec les permis de construire, les architectes, parce que c'est quand même... On pense que c'est moche, La Source, mais c'est quand même beaucoup d'architectes qui ont fait ça, qui ont des droits.
C'est la grande architecture, hein, voilà. C'est la reconstruction, l'urbanisme. Exactement. Sur dalle, hein, dont on va abattre dans deux semaines, justement.
Oui, mais voilà. Mais par exemple, sur la fac, il y a des bâtiments qui sont complètement déglingués, mais il y a quand même des beaux bâtiments, donc on ne peut pas faire n'importe quoi.
Le cône de Radio Campus.
Oui, mais ça, c'est limite classé.
C'est limite classé, c'est vrai, voilà. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi.
Exactement, je ne peux pas le mettre en fluo.
Voilà, on ne peut pas le mettre en fluo, on doit le garder blanc.
Voilà, donc, parce qu'il y a les descendances des architectes. Donc tout ça, ça va prendre en compte, ça va avancer tout doucement en parallèle. Et l'autre concept, c'est le projet, le mur tournant, qu'on appelle un mur tournant, qui s'appelle le mur tournant des Carmes, le mur d'Orléans.
Depuis combien d'années déjà?
Eh bien ouais, combien d'années, j'en sais rien. je l'ai monté avec Ludovic Bourreau. Alors ça devait être la sortie de L'école est finie, donc 2016, un truc comme ça.
Et je crois que là, c'est la 43e fresque.
Ouais,
c'est
un peu plus. J'ai l'impression qu'on chauffe vers le 50e mur. Là, on est bientôt au 50e mur.
Ça doit être 47e alors, ouais, ça que j'ai comme vu ça. Passer. Ouais.
On a 4 murs à l'année. Voilà, ça fait une sorte de... On repasse tout le temps le même mur. Donc ça permet de faire tourner des artistes peut-être un peu moins connus. Même si on se fait plaisir, des fois, ça permet aussi de tester les artistes. C'est pour ça qu'on retrouve des artistes qui sont passés sur le mur, qu'on retrouve au Loire Show.
Oui.
Et c'est un projet qui est assez simple à monter, qui est assez chouette. Ça permet que les gens découvrent que de la peinture, que de l'art, vraiment, arrive dans la gamelle des gens, parce que c'est sur le passage. Ça permet aussi de changer, de présenter de l'abstrait, de l'illustration. Des fois, on se permet même du graffiti pur et dur, du gros lettrage.
Ouais.
Et le but du jeu, c'est de faire une sélection très éclectique. Et, des fois, il y a des trucs que je suis moins sensible. Mais en tant que directeur artistique, j'ai l'impression qu'il me semble que je dois rafaler dans tous les sens. Il faut qu'il y ait un peu de tout pour que tout le monde puisse y trouver et comprendre un peu l'univers du graffiti ou de la peinture.
Tu dis parfois qu'il y a du graffiti, de la grosse lettre. Comment le public accueille ce genre-là?
On ne fait jamais l'unanimité. Ouais. Jamais, jamais. Il n'y a jamais un mur qui a fait « Waouh, j'adore !» Il y a quelques-uns qui ont l'air qui est plus efficace. Alors souvent, c'est l'illustration narrative, figurative. Ça marche toujours quand il y a de la couleur et quand on reconnaît les choses. Bah, là, c'est plus simple. Mais des fois, il y a des gros blocs lettrages. Pareil, les murs, on ne prend pas des gens qui sortent de nulle part. C'est souvent des gens qui ont déjà fait des murs, qui sont souvent professionnels, tout simplement. C'est souvent des gens qui ont un numéro de Siret, c'est triste, mais c'est souvent des gens professionnels qui ont déjà fait des galeries, qui ont déjà fait 200 murs à leur actif.
Alors justement, dernière question, peut-être plus philosophico-politique avant de se quitter. Quel est le rapport entre justement ces arts de rue, ces arts urbains qui parfois sont, tu utilisais le mot très rapidement, de vandalisme, qui sont des arts qui sont non officiels. Quelle place ça a par rapport au fait que parfois ils s'institutionnalisent?
Alors comme je disais au début, nous on ne vient pas du vandal. Moi j'en ai jamais fait, pratiquement pas, parce que j'ai pas le temps, je dessine lentement et le stress c'est pas pour moi, je veux garder mes cheveux. Mais donc du coup, c'est comme le rap quoi, il y a 20 ans, c'était les vilains petits canards et qu'à un moment, Aurel San on l'entend partout, Aurel San c'est Johnny maintenant. Donc du coup, est-ce que le graffiti, j'en suis pas sûr, je pense que c'est tombé dans le domaine public, maintenant on vit avec. Et qu'il y a toute une génération qui a vécu avec, qui a maté, qui a pris les RER à l'époque et qui voyait du graffiti. Voilà, c'est tombé dans la rétine des gens. Donc maintenant, ils le voient plus comme les gens sont capables. Il y a une sorte de... C'est rentré dans la culture. Ils sont capables de faire la différence entre un tag dégueulasse et un truc qui est un peu plus travaillé ou plus léché. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a eu un gros travail sur la nouvelle génération, du moins. C'est sûr que si tu parles à ma grand-mère, elle ne va pas comprendre ou elle est moins sensible.
Is poor the new rich? Est-ce que la pauvreté est la nouvelle richesse? Et le nouveau riche?
Je suis pas sûr.
T'es pas sûr?
Je suis pas sûr. Le marché de l'art est atypique.
Est atypique.
Ouais, est atypique. Il y a un marché de l'art. Le graffiti, est-ce que ça sera le nouveau rap? Vraiment, j'en suis pas sûr.
Tu penses pas?
Non.
Et bien c'est sur ces dernières paroles qu'on va tout doucement se quitter. On le rappelle, hein, le Loire Art Show fait son grand retour. Ça sera du 13 au 29 octobre au collège Jean Rostan, premier du nom, puisque le nouveau collège Jean Rostan a ouvert ses portes.
Oui, c'est l'ancien. Hein.
C'est l'ancien, n'allez pas devant le nouveau collège. Celui-là, il est tout beau, tout propre.
Alors, il y a 18 rues du Nécotin, c'est dans vraiment... C'est pas simple de se garer. Donc venez en vélo, les gens. On a créé un parking à vélo monumental. Et si vous prenez la ligne 3 du je ne sais quel bus, la ligne 3, vous arrivez pile poil devant. Donc là, à un moment...
Allez-y en mobilité douce, c'est le plus simple. Que tu souhaites faire passer. Ouais.
Sinon, vous êtes dans un lotissement. Pour se garer, ça va être le zbeul. Venez à pied ou venez en vélo ou en bus, ça sera très bien.
Voilà, donc tu l'as dit, hein, le 18 de la rue Nécotin, pour retrouver donc cette vingtaine d'artistes qui vont recouvrir les murs de cet ancien collège. Dernier hommage avant... qu'est-ce qui va devenir ce bâtiment ?
Il y a eu plein de plans. Aux dernières nouvelles, je crois que ça va accueillir, j'espère, plein d'associations. Donc là, actuellement, nos voisins, c'est les Bridgers. Oui. Donc on a une association de papy-mamie qui viennent jouer aux cartes tous les jours. Bon, pratiquement, ils ont un truc incroyable. Je crois qu'il y a des billards qui arrivent derrière, il y a des associations. Donc je pense qu'il y a plein de salles, les salles sont plutôt saines. Je pense que ça peut être une grosse zone de stockage pour plein d'associations qui sont en déficit de stockage. Parce que c'est pénible de louer, de claquer l'argent de l'association dans des locacaises. Je vais citer une marque, mais des locations de trucs par-ci par-là. Et ça peut être aussi des bureaux, ça peut être peut-être un nouveau 108 presque, pour d'autres associations, voilà, à voir. Je ne sais pas, je ne connais pas trop la stratégie, c'est encore le flou, tout ça est en réflexion du côté mairie, je crois.
Voilà. Et également, du coup, sur place de l'animation musicale avec tous ces DJ, il y aura des baraques à frites, comme sur les précédentes éditions?
Alors non, il n'y aura pas de baraques à frites, parce que c'est tout un micmac en termes de logistique sécurité.
Ouais.
Il y aura un bar avec des bières...
Et des boissons à consommer avec modération
ou pas. Et non, mais toute la food, par exemple, on a fait un énorme effort sur l'éco-responsabilité. Les bières sont locales. les softs sont locaux, c'est-à-dire
locaux.
Locaux, pardon, je vais y arriver. Et par exemple, il y a de la citronnade qui sont fabriquées à Chingy. Pareil, le vin, on est allé le chercher à Cinq-Bornes, etc., etc. On fait un effort sur ça parce que c'est un festival de peinture. On peut pas être propre partout, donc on essaie d'être propre là où on peut l'être.
Voilà. On retrouve toutes les informations pratiques pour se rendre sur le Loire Art Show ainsi que les horaires d'ouverture. C'est sur le site d'Orléans Métropole et également sur vos réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est Loire-Art-Show sur cette plateforme. En tout cas, merci beaucoup Jean-Michel Ouvry d'être passé
merci
à l'antenne
à
de Radio Campus. Et on continue en musique, Mathéo, j'imagine. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Effectivement, continuer avec The Man of the Satellite de Mona Mure.
Bon, tu veux que je t'en fasse d'autres ou...
Genre midi 13h ? Écoute ta fac !
Men made God to rule the world and all its creatures. Under the mighty glance, he blew nature and replaced it with art deco and laissez-faire les hommes. He invented a lot of things. For instance, women. For his daily rib-eye steak. Bien cuit. Then God sussed out that he was a man himself. Well done, he said. Now in seedy dressing rooms, he's every rotten body's darling on behalf of the Financial Times. Oh, smiling damned villain. Oh, smiling damned villain. In your bed, he's practicing the salvation of America. He's practicing the salvation of America. And afterwards, he's washing his hands in nonsense. Oh, he's not man enough to take me. Oh, he's not wild enough to love me as I need it. Oh, he's not dead enough to please me like an Egypt. Oh, he's not man enough to tease me. God knows. He's the man on the satellite. Shoot him down if you can, baby. Shoot him down if you can. Seal it. Shoot him down, that challenger. Giants use young lovely history as their girl next door. Servants of art and science. Black, white, red, Chinese blood, death, sex, rocks, rockets, bullets, balls, Von Gogh landscapes. They're run out of colors. They're run out of colors. Oh, he's not mad enough
teach me as the Jews teach their sons-in-law. Oh, he's gone to the home of the brave. Oh, Lord have mercy, never make him my slave. Let him live on his sunlight. Won't you do him any harm tonight? Bless you. Won't you go on sacrificing all the charms of yours? Oh, Lord, I don't believe in you anymore. Let me live on my satellite. Maybe I'll shoot you everywhere I can. Maybe everywhere I can. Amen.
Écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Radio Campus 81.3, toujours en direct depuis le festival Urbrain, samedi 7 octobre, à l'occasion donc de l'expression de la diversité des cultures urbaines, et nous accueillons différentes associations. Je rappelle qu'à la technique, c'est Saïad, et nous accueillons donc la ressourcerie AAA, que les plus fidèles auditeurs auditrices de Radio Campus ont reconnu, puisqu'un reportage y avait été consacré il y a quelques années sur le site de la Rédac Pop, mais depuis, bien des choses ont changé. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Johan.
Bonjour.
Emeline.
Bonjour.
Et
Antoine.
C'était l'invité mystère. Non, alors vous allez me parler chacun de votre fonction au sein de la ressourcerie.
Ok, alors moi je suis président de l'association, donc depuis un petit moment maintenant, quelques années, et puis je représente l'association auprès de partenaires, et je fais attention à ce que tout se fasse bien entre les salariés et les bénévoles.
Moi, je suis en service civique depuis septembre. Voilà, donc j'ai trouvé ça sur Internet et puis ça m'a pas mal plu et j'ai rejoint la ressourcerie. Voilà.
Et moi, je suis animatrice, donc je sensibilise le public sur des événements comme aujourd'hui, par exemple, sur le réemploi. Et j'ai commencé en même temps qu'Antoine, parce que début septembre.
Alors, il va être question de réemploi au cours de cette émission, mais tout d'abord, on va revenir sur le travail que réalise une ressourcerie au niveau local. Donc, la ressourcerie AAA de Saint-Jean-de-Bré, 21 avenue de Gay-Lussac, permet tout au long de la semaine, entre 10h et 19h, d'accueillir justement des personnes qui viennent déposer des objets. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Oui. J'ai déménagé, je suis venu me débarrasser de meubles, de livres, de disques, etc. Afin que des valoristes puissent justement, après, les mettre dans différents compartiments et puis les orienter dans la filière du réemploi.
C'est exactement ça. Alors, on est ouvert de 10h à 19h du mercredi au samedi, et lundi, mardi, ça a changé un peu, c'est 9h-16h30. Et donc oui, les objets qui nous sont apportés ou qui arrivent de déchetterie, parce qu'on est présent en déchetterie aussi pour sensibiliser les gens et leur dire mettez pas tout à la benne, on peut récupérer des choses. Les choses peuvent resservir. Arrivent chez nous, donc rue Gay-Lussac, et les valoristes vont réparer, trier, nettoyer quand il y a besoin, faire des caisses, et donc les caisses repartent en boutique.
Mmh. Avec 5% seulement d'objets non destinés au réemploi, et encore, je me rappelle lors de ce reportage, il y a des exceptions, puisque ce petit tas de 5%, tas, ouais. Des fois, des artistes ou des bricoleurs viennent chiner dedans et trouvent quand même...
Et nous-mêmes,
nous-mêmes,
en fait, on s'est rendu compte que c'était majoritairement du plastique. Donc on s'est doté de petites machines de recyclage plastique. C'est donc Precious Plastique, c'est des machines open source qu'on peut construire soi-même. Alors on l'a pas fait. On a acheté les nôtres à quelqu'un qui les a mises aux normes CE parce que pour bosser en atelier, c'était bien. Et donc ça nous permet de ne plus renvoyer à la déchetterie, donc à l'incinérateur, ce plastique majoritairement constitué de boîtiers de DVD, de boîtiers de CD, de vaisselle jetable, des coque-up parfois aussi. Et avec ça, donc on fait, ça nous permet de retape des meubles, on refait des plaques qui nous permettent de refaire des tables basses, des petites poignées de porte. On fait aussi des petites choses comme des boîtes de rangement, des mousquetons, on a fait un banc. Alors on a fait un banc avec 646 boîtiers de DVD. Voilà, et donc ça nous permet de traiter un peu tout ce plastique qui reste dans les 5% qu'on a, dont on ne sait pas quoi faire, après les 60% de réemploi et les 30% de recyclage.
Et donc une nouveauté depuis ce reportage, parce que maintenant c'est une ressourcerie dans laquelle on peut venir justement acquérir des objets.
Oui.
Ce qui n'existait pas avant, à l'époque du reportage.
Alors avant, on avait une boutique uniquement en centre-ville.
Au 106 rue de Bourgogne.
106 qu'on va ouvrir encore un petit peu jusqu'à la fin de l'année, mais qu'on lâche parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire et on n'a pas les moyens de les faire. Et puis, on était dans une boutique éphémère avec Emmaüs, qui a été à Place d'Arc, qui maintenant est en centre-ville, en face, dans l'ancien Once Again, en face les galeries Lafayette. C'est un ancien Mango aussi pour ceux qui connaissent. Et voilà, maintenant, après un an d'attente et de travail sur le dossier administratif, on a réussi à ouvrir, donc en février, 480 mètres carrés de boutique de réemploi à Saint-Jean-de-Bray, à côté de nos locaux de valorisation.
Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. J'invite les auditeurs auditrices à se retourner vers le site de la Rédac Pop, parce que vous mettez aussi en place des partenariats, notamment avec d'autres associations pour l'accompagnement au logement, pour meubler par exemple des personnes qui viennent d'arriver d'un appartement. Exactement. Je sais de quoi je parle, c'est mon cas, c'est super pratique, c'est le bonheur quand même d'aller dans une ressourcerie. On a le choix, c'est pas cher. Et puis on sait que ça sert à quelque chose, surtout que ça a du sens. On n'est pas dans la mode, comme on appelle ça, fast fashion, mais plutôt dans le slow fashion. Ça a son charme aussi.
Voilà. Donc on dit réemploi, mais on appelle c'est plutôt ça réemploi solidaire, parce qu'on cherche aussi à faire entendre notre différence par rapport au réemploi lucratif. Il y a de plus en plus de grandes enseignes qui montent des friperies, qui montent tout un tas d'initiatives pour capter des objets et les revendre directement. Alors c'est bien. Ça va pas à la déchetterie et ça fait un peu moins de production, mais ça vide un peu de son sens aussi le réemploi que nous on pratique, qui prend soin de l'humain aussi.
Oui, parce que donc il y a le réemploi capitaliste et puis le réemploi qui se situe plutôt dans l'économie sociale et solidaire, où le but n'est pas de s'enrichir, mais plutôt de nourrir un projet.
Le but, c'est que tous les bénéfices qu'on retire de la vente de nos objets nourrissent le projet. Qu'il soit sociétal, social ou environnemental. Il y a vraiment trois facettes à ça.
Voilà, il n'est pas seulement environnemental, il est aussi social, vous l'avez dit, et puis j'ai oublié.
Sociétal et environnemental. Sociétal, voilà. pour montrer aux gens qu'on peut reprendre le pouvoir sur nos objets, les réparer, les faire durer plus longtemps. Et puis social, parce que on équipe des gens qui n'ont rien, et même pas des jouets pour les enfants. Donc avec tout ce qu'on a en déchetterie, la pléthore de choses qu'on jette, qu'on détruit, qu'on brûle, nous on en détourne une partie, on arrive à en détourner une partie pour ça. Et ça devrait être beaucoup plus fait.
Mais ça marche bien. Hein. Je sais que les jeunes, il y a de plus en plus de jeunes dans les ressourceries, ah oui. À Emmaüs, ça devient à la mode et tant mieux.
Mais les ressourceries, en fait, elles touchent aussi bien des gens dans le besoin, qui ont juste besoin d'assiettes et de gamelles pour pouvoir manger, et puis des gens qui cherchent des petits objets sympas, des trucs un peu vintage, des collectionneurs aussi. On a même les brocanteurs et les antiquaires, j'en parle même pas, ils viennent beaucoup chez nous. Donc oui, ça plaît à beaucoup de public.
Et vous, Emeline, alors, en tant qu'animatrice, est-ce que vous pourriez nous parler de vos missions au sein de la ressourcerie ?
Tout à fait. Donc on a un public très divers, parce qu'on va toucher des enfants, on va intervenir sur le temps périscolaire, sur les centres de loisirs, pour sensibiliser les enfants sur leur emploi. On peut intervenir avec les bailleurs sociaux en pied d'immeuble, où on va pareil faire des ateliers de ce qu'on appelle de l'upcycling, donc détourner l'usage premier d'un objet pour en faire autre chose. Et aussi intervenir sur par exemple le comptoir du réemploi, une de nos boutiques à Saint-Privé-Saint-Mémin, où on va faire des ateliers aussi ouverts à tous les publics, où on a aussi un atelier permanent, récurrent. À la source, à Ressource-toi, donc un appartement de démonstration. Comment on appelle ça déjà?
Maison témoin.
Ouais, voilà, un appartement témoin. Voilà, donc là, on fait des ateliers régulièrement aussi. Donc, on touche des personnes qui sont à la retraite, des personnes actives, des personnes, des enfants. Donc, pour sensibiliser sur le réemploi et changer nos manières de consommer.
Très bien, merci à vous. Peut-être qu'on peut rappeler à nos auditeurs auditrices que dans toutes les déchetteries, il existe un point justement où au lieu
alors,
de jeter...
Toutes.
Alors dans
pas
beaucoup de déchetteries, toutes. Pardon, mais dans beaucoup de déchetteries, vous pouvez déjà laisser vos objets en bon état, enfin les objets qui peuvent être justement réemployés dans des espaces dédiés. Ça aussi, c'est un progrès qui a été fait dans les déchetteries. Et puis, il y a souvent la queue aux déchetteries, alors qu'il y a moins souvent la queue à la ressourcerie. Et donc, si vous voulez vous débarrasser de certains objets, de livres encombrants, au lieu, et je le rappelle, c'est interdit d'aller encombrer des bibliothèques de rue parce que voilà, vous n'avez plus la place chez vous et que la bibliothèque de rue, c'est pas fait, c'est pas un dépotoir non plus. Allez les mettre à la ressourcerie. C'est pareil pour vos vêtements. De toute façon, si vous les mettez dans les bacs, parce qu'il y a des bacs de recyclage aussi, ils arriveront à la ressourcerie.
Non, ils arrivent chez nos collègues du tremplin.
Du tremplin.
Le tremplin
oui,
qui s'occupe de toutes les bennes. Mais, et nous, nous-mêmes, on capte une partie de textile et ce qu'on n'arrive pas à réemployer, ça va chez eux.
C'est le même écosystème, tout ça.
Voilà, c'est
d'accord.
Dans l'écosystème.
Donc, arrêtez de jeter, essayez de donner tant qu'il est temps. Les enfants grandissent et donc les modes ne changent pas forcément. Hein, ce qui allait à un petit qui ne va plus, par exemple, à Antoine, parce qu'il aussi veut changer, je ne sais pas, de style, de look, etc. Hop, on ne jette pas, on arrête de jeter aujourd'hui. Ça finit incinéré. Je crois que les températures de ce jour ne me contrediront pas. Contrediront pas, voilà, il faut avoir cet esprit-là, justement, cet esprit. C'est une culture, hein, petit à petit, les choses évoluent. Je rappelle qu'on on retrouve donc du mercredi au samedi de 10h à 19h au 21 avenue Gay-Lussac et les lundis-mardis.
Lundi-mardi pour les apports volontaires, 9h30, 16h30.
Voilà. Et plus d'informations sur ressourcerie AAA.
La ressource AAA.fr.
Voilà. Merci à vous, merci à Antoine, merci à Johan et merci à Emeline. Vous êtes
merci.
Toujours sur Radio Campus 88.3.
Merci.
C'était l'interview de Daniel avec la ressourcerie. Maintenant, on va passer un peu sur un peu de musique. On Time de Keop, tout de suite sur Radio Campus.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Et oui, il est bientôt 13h, c'est bientôt la fin d'Écoute ta fac. Mais ce n'est pas grave, au programme, ensuite après Écoute ta fac, il y a Polémix et la voix off de 14h à 15h, suivi du moulin à parole évidemment. Pour commencer, le début de soirée de 17h à 18h, le Mac culturel, suivi de l'art qui parle de notre temps. Pour finir en beauté cette journée de 20h à 22h, Dareal Kicking Funk Steer, suivi de Nation Grove jusqu'à minuit. C'était Écoute ta fac sur Radio Campus Orléans. Merci de nous avoir écoutés.
The rally bit me, the rally died. I'll bring him back, leak him dead or alive. Chief, that morning, I'm not scared. Spread the blood out of honey and wake up the dead. Pretty, pretty, sing like a sparrow. Woke up that morning, sharpened my arrow. Woke up that morning, sharpened two spears. Hit it one for the rattler, one for fear.